Pour débuter ce LEM, nous ne sommes pas dans les studios de Radio Évasion, mais à l'extérieur, dans un atelier à Châteaulin, c'est le dépannage électronique avec Christian Léon. Vous vous en doutez, si vous nous écoutez régulièrement sur Radio Évasion, il y a plein de problématiques que l'on traite assez souvent. Et aujourd'hui, on a quelqu'un au cœur de la machine avec Christian qui sait de quoi il en retourne quand on parle d'obsolescence programmée. Ou d'usure programmée, peut-être. Certes, le sujet pose de nombreuses questions. Pourquoi changer quand on peut réparer? Et là-dessus vient se poser une autre question. Comment réparer s'il n'y a plus personne pour réparer? Et malheureusement, c'est le signal d'alarme que vous lancez, Christian.
Bah oui, parce que là, dans un an, je serai normalement à la retraite. Dans moins d'un an maintenant. Et je commence à chercher activement un repreneur. Et je m'aperçois que c'est pas si facile que ça. De plus en plus de gens cherchent un dépanneur. Je m'en aperçois tous les jours, et il y a de moins en moins de dépanneurs sur la place, donc ça devient carrément compliqué. Les tout nouveaux appareils, évidemment, ça pose problème, parce qu'ils ne sont pas prévus pour être réparés, mais tout ce qu'on a encore dans les armoires et à la maison, bah oui, ça vaut le coup, bien sûr.
Qu'est-ce qui explique que vous trouviez personne pour reprendre le magasin?
Ben, parce qu'il n'y a plus vraiment de formation à l'électronique de dépannage. En fait, dans les écoles, on n'apprend même plus vraiment l'électronique, c'est-à-dire le fonctionnement des composants de base, du style résistance, condensateur, transistor, enfin les trucs de base.
On n'apprend plus le code des résistances?
Même pas. Non, on n'apprend plus ça. Et même le fonctionnement de base des transistors, c'est-à-dire les composants, les briques élémentaires de l'électronique, on ne les apprend plus. Maintenant, les jeunes, on fonctionne souvent avec des modules tout faits, qui sont fabriqués en Chine, qui valent trois fois rien. Et l'électronique, ça se résume à assembler des modules comme ça. Et dans les écoles, on leur apprend la programmation. Tout ce qui est circuit logique, on fait ça avec un petit module, ça s'appelle un Arduino, ça coûte quelques euros, ça se programme avec un ordinateur, et ça fait à peu près tout ce qu'on veut. On peut faire plein de choses. N'empêche que ça, on n'apprend pas à utiliser vraiment et à créer quelque chose. Alors, le dépannage que je fais, ça concerne des appareils qui sont quand même plus vieux, qui ont, je sais pas, 10, 15, 20 ou 30 ans de conception, où là, on utilisait effectivement tous ces composants-là, et les jeunes, ils n'apprennent plus ça, donc ils se retrouvent face à un mur, ils ne connaissent pas. Moi, j'ai eu la chance d'apprendre ça, c'était il y a quand même quelques dizaines d'années maintenant, et voilà, je peux encore dépanner. Mais les nouvelles générations, ça va être compliqué parce qu'il n'y a plus de gens formés à ça. Voilà.
La différence entre ce que eux ont appris, enfin ce que eux apprennent maintenant et ce que vous avez appris, finalement, c'est quoi la grosse différence? C'est l'arrivée du circuit des microprocesseurs, quoi.
Voilà, c'est vrai que les microprocesseurs ont complètement révolutionné toute l'électronique et ça a permis de faire des composants beaucoup plus petits. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des...
Là, vous expliquiez tout à l'heure le principe, le transistor. Ouais. Dans un microprocesseur, on en trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup plus.
Des millions, sinon des milliards. Ouais. Évidemment, toute la conception, elle change complètement, mais vraiment complètement. Et c'est pour ça que c'est vraiment compliqué à dépanner et à comprendre même, tout simplement.
Alors, l'industrie a sa part de responsabilité dans l'histoire ?
Oui et non. En fait, c'est le consommateur à la base qui demande toujours plus de performance avec un prix toujours plus bas. Donc forcément, il faut bien trouver une solution. Et maintenant, comme les composants électroniques, ça permet d'avoir énormément de fonctions dans un tout petit volume et donc une pièce qui ne coûte pas très cher. Et en plus, une pièce qui peut servir à énormément d'appareils et qui se programme... Toute la différence vient de la programmation. Ça permet quand on fait des gros volumes, d'avoir des coûts de production extrêmement faibles.
Alors là, vous avez des difficultés à trouver un repreneur. Mais pourtant, est-ce que c'est rentable d'être à son compte comme vous l'êtes?
Bah ouais, moi je trouve ça tout à fait satisfaisant. Franchement, je m'en sors bien sans voler personne. Et au contraire, en rendant service à plein de gens, ça, j'en vis bien. Franchement, sans problème. Évidemment, je ferai jamais fortune là-dedans, mais c'est pas le but non plus. Mais voilà, c'est de l'artisanat bien géré, on va dire. Enfin, non, pas géré.
Si.
Bien mené. Ouais. Voilà.
Parce que là, vous fonctionnez tout seul, c'est-à-dire que les gens vous appellent, vous envoient du matériel, et puis, vous êtes tout seul dans l'atelier, quoi.
Oui, je suis tout seul, mais là c'est un choix parce que je suis en fin de carrière. Quand j'ai monté l'atelier il y a bientôt 6 ans, je savais que la retraite ça allait être dans quelques années. Je voulais pas me compliquer la vie, je voulais un petit peu lever le pied. Et je me suis dit que si je me développais, je prenais du personnel, enfin ça me compliquerait la vie, donc j'ai préféré rester tout seul.
On peut faire un petit tour de l'atelier là. Qu'est-ce qu'il y a à votre proximité?
Ah, sans problème. À proximité, on a un atelier qui est visible de l'extérieur. Donc là, actuellement, je suis à mon poste de travail. À ma gauche, des tiroirs avec l'outillage à main, les tournevis, enfin, tout le petit bazar nécessaire, les produits chimiques. Il y a pas mal, des colles, des nettoyants, des tas de trucs. Face à moi, un établi. Et là, je suis en train de réparer deux caméscopes, des vieux caméscopes H8. Évidemment obsolètes, mais n'empêche que les clients ont encore plein de cassettes et ils aimeraient bien les récupérer. Ouais, au moins
c'est pas pour filmer, là, c'est pour revoir les cassettes, justement.
Voilà, c'est uniquement pour revoir les cassettes. Face à moi, des appareils de mesure traditionnels de la profession.
Un oscilloscope, j'en ai pas vu depuis longtemps.
Voilà, un oscilloscope. Un appareil qui me sert énormément, c'est le multimètre à aiguille. Maintenant, la mode est bien sûr aux appareils numériques, tout digitaux. Mais pour dépanner, rien ne vaut un multimètre à aiguille. C'est bien plus pratique. Après, bien sûr, j'ai différents générateurs, haute fréquence, basse fréquence, très performants. Un téléviseur qui me sert d'écran de contrôle, bien sûr. Un ampli et des enceintes, ouais. Histoire de pouvoir tester d'une platine CD, un enregistreur. Et bien sûr, les traditionnels fer à souder à ma droite. À souder, à dessouder, des gros, des petits. Donc j'utilise en fait trois fers à souder et un fer à dessouder. Et à mon extrême droite, l'outil qui sert énormément, bien sûr, c'est l'ordinateur. Avec deux grands écrans, parce que maintenant, toutes les docs techniques, je les trouve sur Internet. Avant, c'était sur papier, c'était plutôt pratique. Maintenant, c'est tout par Internet, donc deux grands écrans sont indispensables pour avoir quand même un détail suffisant. Une bonne connexion Internet, bien sûr, parce que là, c'est à peu près indispensable. Et puis voilà. À côté de moi, pas très loin au moins, y a le comptoir avec l'ordinateur qui me permet de gérer le dépannage, les entrées, les sorties, les pièces, toutes les commandes. Et un tout petit peu plus loin, bien sûr, plein de tiroirs de composants.
Ouais, avec plein de condensateurs, plein de résistances.
À peu près toutes les sortes de fusibles, du très petit, toutes les valeurs, dans plein de modèles différents. Résistances, condensateurs, transistors, circuits intégrés, des ampoules, une infinité.
Des vieilles lampes pour des beaux amplis?
Oui, bien sûr, évidemment. Ah ouais, ouais. Alors, j'ai pas trop d'amplis. Je répare pas très souvent des amplis à lampes. Sauf pour des amplis de guitare, ça j'en vois assez régulièrement. Par contre, les amplis hi-fi des années 90, même 2000, avaient de belles ampoules qui éclairaient la façade. Et ça, évidemment, j'ai tous les modèles d'ampoules aussi pour réparer ça.
Pourquoi on vient vous voir assez régulièrement?
Oh là là, c'est difficile à dire. En fait, il y a de tout. Je suis même incapable de dire qu'est-ce que je répare le plus. Parce que par période, il va y avoir plein de téléviseurs, sans que je sache trop pourquoi. Et puis après, pendant une semaine, il n'y en a pas un seul qui rentre. Par contre, il va y avoir plein d'éléments hi-fi. Et la semaine suivante, ça va être des modules de lave-linge ou de sèche-linge. Ou des câbles. Mais les réparations ne sont pas toujours très compliquées. Ça peut être une bête prise de casque.
C'est ça.
Tout simplement, quelques euros. N'empêche que c'est bête de jeter un casque pour une prise à quelques euros. Ou des clés de voiture aussi, avec les petits plis, enfin pour ouvrir les voitures. Ça, j'en répare beaucoup.
Hein. Ça, on peut les réparer sans forcément renvoyer ça au garage et puis et changer juste un petit composant dans la clé, quoi.
Oui, bien sûr. En fait, moi, je ne m'attaque pas à la partie codage de la clé. Par contre, quand on appuie sur la touche à l'extérieur, c'est juste un petit interrupteur. Et souvent, le caoutchouc qui est là-dessus devient poreux, l'eau rentre. Le circuit imprimé s'abîme, le commutateur se détruit. Donc moi j'ai quasiment tous les types de petits interrupteurs. Je change ça, je nettoie ça bien, pile neuve éventuellement, et hop, ça repart. Donc pour 20 ou 30 euros, ça y est, on a une clé qui marche à neuf, tout simplement. Alors évidemment, c'est tout petit, c'est des soudures souvent microscopiques, et c'est pour ça que j'ai oublié de présenter un outil qui me sert beaucoup, c'est celui-là, c'est un microscope binoculaire. Alors ça, une simple bino, mais l'intérêt c'est qu'il y a une distance entre l'objectif et le circuit, comme ça je peux manipuler des tournevis ou des fer à souder en dessous, et ça change tout, ça change tout. Et puis, il faut bien le dire, à 60 ans, la vue baisse. Donc, et puis, il faut dire aussi que les pièces sont devenues extrêmement petites. Vraiment très, ouais. très, très petites. Mais ouais. bon, je m'en sors pour l'instant. Tout va bien.
Dans votre activité, est-ce qu'il y a une démarche écologique que vous revendiquez ? Clairement, de manière propre, nette, sans bavure.
Je ne sais pas si on peut dire réellement écologique. Par contre, il y a un truc que j'aime pas du tout, c'est le gaspillage. Mettre quelque chose qui peut encore marcher à la poubelle, ça me... Bah non, pour moi, c'est pas possible. Et quand je vois tout ce qu'on jette, ce qu'on trouve dans les déchetteries, je suis sûr qu'il y a 60 ou 70 ou 80% des appareils qu'on pourrait réparer sans trop de problèmes. Maintenant, après, bah, faut trouver des pièces. Et il faut trouver aussi les gens pour le faire. Et ça, c'est pas évident. Puis il faut voir aussi que le matériel, souvent le prix du matériel neuf baisse et ça ne devient pas forcément très rentable de réparer un vieux machin. Ça dépend, c'est à voir au coup par coup. Mais c'est vrai que j'aime pas jeter. Alors, jeter surtout tout ce qui est hi-fi par exemple. Un ampli hi-fi même qui a 30 ans, c'est magnifique. Enfin, au niveau performance, on fait pas mieux actuellement. Enfin, sauf à l'une télécommande par exemple, mais bon. Mais jeter un appareil comme ça, c'est dommage. Quand on l'a acheté, on a fait attention, on a mis des économies dedans, on a mis du plaisir à acheter un appareil comme ça. 20 ans après, il est encore tout joli, tout brillant, enfin voilà. Et se dire, ben non, on peut pas le réparer, on va prendre un machin en plastique de maintenant. Ben non. Donc c'est pour ça qu'il y a un côté plaisant d'éviter le gaspillage. Voilà.
Il y a plein d'autres raisons aussi pour lesquelles c'est bien de ne pas gaspiller, parce que comme ça évite d'aller prélever d'autres matières premières qui ont de la valeur et
Complètement. Et je pense qu'on va se retrouver le problème avec les voitures électriques et ce genre de choses, avec le problème de recyclage des batteries. Ça risque d'être assez rock'n'roll aussi, hein.
Oui.
Carrément. Bon, on le voit par exemple avec Nespresso, avec les capsules Nespresso qui utilisent pas mal d'aluminium et qu'ils ne savent pas recycler. Alors Nespresso récupère des tonnes et des tonnes de dosettes, il les stocke, il les broie, mais il n'arrive pas vraiment à séparer le café de l'aluminium, et on met encore à la poubelle plein de cochonneries, ça coûte un argent fou, enfin, il faudrait peut-être revenir un peu sur Terre, quoi. Non, c'est vraiment un gros gaspillage de ressources. Je pense.
On a tendance à associer le dépannage à des objets qui pourraient peut-être dater des années 80, 90, peut-être à la limite 2000, mais je suis super surpris de voir par exemple là dans l'entrée plein d'écrans plats façon télé LED. Ça peut, il y a des petits trucs à réparer là-dedans qui sont pas forcément du fait du constructeur.
Ah oui, bien sûr. Sur un téléviseur, un truc que je vois très souvent, c'est la prise d'antenne arrachée, par exemple. Parce que on a fait pivoter le téléviseur et schrac, vas-y que je t'arrache la prise coaxiale. Donc il faut démonter le téléviseur, dessouder le tuner, ce qui n'est pas forcément évident à faire. Et après, à se débrouiller pour ressouder une prise correctement là-dessus. Ça prend un peu de temps quand même, une prise ça vaut pas très cher, mais c'est toujours mieux que de mettre le téléviseur à la poubelle. Même si le téléviseur vaut pas très cher, imaginons, je sais pas, 150 euros le téléviseur, ça vaut encore le coup de dépenser, je sais pas, 50-60 euros pour le réparer, plutôt que 150 pour en changer un autre, il y a quand même 100 euros d'écart, quoi. Donc ça vaut bien souvent le coup. Après, ça peut être une surtension secteur, les coups d'orage, ça arrive assez fréquemment. Un truc que je vois souvent, c'est des LED aussi, dans les fameux télé à LED, avec des LED qui claquent.
Maintenant, c'est pas tant... là, pour le coup, il y a beaucoup de communication autour de votre magasin. C'est pas tant des clients que vous recherchez finalement. Là, maintenant, c'est un repreneur. C'est ça l'urgence, en fait.
Ben voilà, parce que normalement, dans 10 mois et des poussières, j'arrête. Parce que j'ai envie de voir le vaste monde, j'ai envie de pouvoir prendre le temps de faire autre chose que de l'électronique. Et pourtant, j'adore mon métier. C'est extrêmement plaisant, mais à un moment donné, j'ai envie de faire autre chose. Et là, la question se pose effectivement de trouver un repreneur. Donc idéalement, il va falloir trouver quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Moi, je dirais au moins une dizaine d'années d'expérience pour avoir vu assez d'appareils, avoir assez de recul pour pouvoir s'en sortir. Parce que si on met un jeune qui sort, imaginons avec même un diplôme d'ingénieur en électronique, s'il n'a pas l'expérience de ça, il va galérer sur les deux tiers des appareils. Il ne saura pas vraiment soudé, il ne saura pas comment appréhender les pannes. Entre la conception et le dépannage, il y a vraiment un monde, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même approche. Et le problème, c'est que le dépannage, on ne l'enseigne plus. Il y a... plus de 10 ans, il y avait encore des écoles de dépannage, c'est-à-dire que des marques comme Philips, Grundig, Thomson, etc. avaient leur école, leur service formation. Et donc on allait chez eux en région parisienne bien souvent, ou Rennes, enfin ça dépendait des coûts. Et là on avait vraiment des cours, donc il y avait vraiment un support de cours, les bouquins avec les vrais plans de l'appareil, et ils nous expliquaient pas à pas comment fonctionnait tout l'appareil. Il y avait une vraie formation d'épannage, on nous expliquait les pannes qu'on pouvait trouver, comment arriver, enfin toute la logique pour y arriver. Mais actuellement il n'y a plus d'école comme ça, et une école d'ingénieur, la démarche n'est pas du tout la même. En gros, on lui dit à l'ingénieur de faire un appareil et à lui de trouver les solutions pour y arriver, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Il n'y a plus d'école, plus de formation. Donc, à mon avis, d'ici 10-15 ans, il n'y aura plus vraiment de dépanneurs. Bah déjà, je vois dans le Finistère, on n'est pas nombreux du tout. On est quoi, 4-5 à faire un truc comme ça, polyvalent comme moi, quoi. Alors, il y en a quelques-uns qui sont un petit peu plus spécialisés dans les téléviseurs, par exemple, qui font que ça, en travaillant sous garantie pour les marques, par exemple. Mais ils n'agissent pas sur un casque IFI ou un micro de sono, ou une guitare électrique, ou un programmateur de machine à laver. C'est vraiment un super métier que je pratique dans des conditions quasiment idéales. C'est-à-dire que l'atelier... de l'atelier, je vois tout le quai, les gens qui passent, enfin voilà, les gens me voient travailler, et je trouve ça vraiment très important que de faire apprécier ce que je fais. Ouais. Ça donne un petit peu une certaine légitimité aussi, c'est-à-dire que le client me voit travailler, il voit bien que j'interviens dans l'appareil, je sous-traite pas, ou je vais pas lui raconter des bobards. Si je lui dis que quelque chose est mort ou je ne peux pas réparer, je peux lui montrer vraiment pourquoi. Je ne cache pas, je veux montrer mon truc, je veux communiquer. Mais ce qui m'a souvent étonné, c'est que je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de jeunes intéressés par l'électronique. Et qui resteraient regardés. Alors il y en a effectivement quelques-uns qui sont venus, il y en a un qui est devenu un ami. Mais globalement, je trouve que les jeunes ne sont pas très curieux de ce genre de choses. Comme nous, on l'était dans les années 80, où il y avait un côté beaucoup plus fascinant. Maintenant, ça s'est tellement banalisé. C'est du consommable, c'est du jetable, ça passionne moins, quoi. Et pareil, les gens bricolent moins. Si avant, on construisait des appareils, on pouvait les construire, c'était passionnant à faire. Des postes de radio avec les radios amateurs, enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. La hi-fi, on bricolait, on fabriquait des enceintes. Maintenant, j'ai l'impression que quasiment tout est fait, tout existe, et ça n'a plus vraiment l'intérêt de créer. Et pourtant, c'est absolument passionnant, quoi.